Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour, la plume est à vous. Nouveau format et nouvel horaire pour votre émission que vous retrouverez désormais tous les dimanches de 21h à 21h30. Au micro, Michel Philippot. Vos textes sont toujours les bienvenus que vous pouvez nous transmettre à l'adresse suivante plume@bretagne5.fr en minuscules et au singulier, en y joignant vos coordonnées et une courte biographie. Pour inaugurer cette nouvelle formule, je vous propose ce soir d'entendre la première partie d'une très longue nouvelle de Gilles Dorgère, écrivain franco-québécois, dont les premières années passées près de Saint-Brieuc ont inspiré ce petit bijou dans lequel un vieillard, malgré les ravages du temps et la poussée d'un soi-disant progrès urbanisant, refuse obstinément de renier le môme qu'il n'a jamais cessé d'être. La langue de Gilles Dorgère est souvent brute, parfois brutale, et porte sur le monde un regard à hauteur d'enfant. La plaine. Les années de frénésie. La plaine. Des chemins de terre quelque part. Un lieu sans âge, un décor de plateau qui fait son cinéma dans les méandres de l'enfance. Rien que des façades, fenêtres borgnes ouvertes sur des toiles peintes. Cubes de fausses pierres alignées. Première tranche, maison de fabrique dans la prospérité des années 60. Quelque part, sous des ciels gris d'ouest. L'usine est là, derrière la voie ferrée. Tous, ou presque, y travaillent. C'est neuf, c'est blanc, ça rutile. C'est le progrès qui marche dans la plaine. Doucement, un vieillard se souvient, dans la lente psalmodie balancée d'un rocking chair, barbe longue, grise et mal tressée. Petite voie d'hospice à l'angle de la rue Henri Poincaré. Il fait un peu beau. On l'a posé là pour qu'il raconte aux enfants, aux vieux chiens perclus, au vent tiédi, au bouvreuil qui se pose un tout petit instant fébrile sur la haie de tuya qui ceint et masque difficilement le délabrement du vieux corps de ferme. Elle abrite, la haie de tuya, tout l'héritage ancien, ce qui reste des sueurs d'été, des barriques, des 5 quarts de cidre frais pressé, des jambes nues dans le lavoir, quelque part planqué là-bas, sous le vin de la rue Henri Poincaré, quelque part sous les bulldozers et le béton. Un vieillard se souvient, sans haine. La plaine, des enfants grimpés sur des brabants inertes. Juin, il, le vieillard, court dans le vent tiède. Ça sent les foins frais coupés. Aujourd'hui, le blé ondule sur les trottoirs de ciment gris, dans les jardins éclos, au plein milieu des salles à manger, au parquet ciré et des bibelots. Août. Il, le vieillard, court dans le chemin crotteux entre deux talus de ronces. Au bout, l'étang Bougou. Creux du chemin, la chaleur tombe, s'enferme, stagne, fait éclater les murs des ronciers. Il y a la bande. Eux, ils courent aussi, s'arrêtent, grimpent au talus comme des chevrettes, culottes courtes, jambes nues contre le fouet des ronces qui se fendent, repartent, la peau des doigts violette, les lèvres bleuies et dans la bouche un goût de sucre. Bombinement des mouches, du sang d'apache sur les mollets nus. Il hésite, le vieillard. Un peu de jus ancien goutte sur les poils de sa barbe de poète. Il raconte, il radote, il est la mauvaise conscience du quartier, des renégats sans aloi. Son public, incertain et protéiforme, passe comme des ombres de vent. Sa voix est perdue. Il y eut un début, il y eut une fin, jamais les mêmes. Il enjolive, s'embrouille. D'ailleurs, était-il vraiment là? Lui-même n'est plus très sûr. Il y a la bande qui l'observe derrière la haie de Tuya. Ils y sont tous, avec des noms d'époque, mais c'est comme ça, inévitable. André, le gars de la ville Augier, Hubert, du Guélambert, le fils du manoir éponyme, Marcel, Marc, François et Rémi. Ah, la Roussine, la Noé verte, la Terre âgée, le Val Boulin, toutes les métairies. C'est toute la plaine qui s'assemble dans le ferraillement des bicyclettes, court, joue, lance, à jets de fronde, de mortels défis aux moineaux, bastonne en gerbes homériques l'eau du lavoir à peine reposée de son savon. Il, le vieillard, a des yeux étranges, posés sur son bout de trottoir gris, la barre fait écran. Oh, tout juste une barre, à peine 5 étages, qui domine les petites maisons de fabrique. Une hiérarchie, déjà, tellement évidente qu'elle s'oublie. Les appartements aux ouvriers, les petits cubes gris à la maîtrise et l'usine. L'usine au-delà de la voie ferrée. À qui? Le grand ventre de l'usine qui les digère tous et rejette vers des trains lourds, si lourds, ces carcasses émaillées, ces chauffe-eau perfectionnés qu'ils réussiront bien un jour à se payer, les ouvriers, en même temps d'ailleurs que la 4 chevaux et la liberté qui va avec. Folles escapades sur des nationales filées de bornes Michelin, c'est tout ça qu'il porte dans ses yeux étranges, le vieillard, avec cette barre qui, si justement, barre son vieil horizon, sa plaine de blé. Sa bande, sa douleur ineffacée, indélébile. Sa douleur blette, qui l'a fait vivre si fort, si intensément, dans son jeu de dupe avec la mort. Maintenant, bien sûr, il la voit mieux qu'au temps des pierres aux moineaux. Mais il l'a toujours su. Sa vieille compagne d'enfance ne le décevra pas. Jusqu'au bout, il le sait, le vieillard. Elle sera là, tiède et fidèle, à lui tendre la main par-delà le silence inconnu et la grande nuit du fleuve. Jusqu'au bout, comme un appel obligé. Il ne souffre plus vraiment. Il a, comme il se dit parfois, déjà fait son deuil, sans crêpes ni brassards, juste les yeux un peu voilés, par respect, pas par peur. C'est là qu'il est aujourd'hui. C'est là qu'il a choisi d'être, sur ce bout de trottoir, sur sa chaise à bascule, avec les passants qui passent, les oiseaux qui volent et parfois se posent pour l'examiner avec les vieux kleps qui se pissent dessus en levant la patte et parfois aussi un enfant qui le fixe de son regard d'ange féroce. Le mouvement des journées et la sirène de l'usine qui mugit sur la plaine d'avant. Il est têtu, le vieux, il est têtu. Des ponts d'or pour sa vieille métairie. Mais rien à faire, il est là, il raconte. Ça a commencé par le nord, loin, oh, des ombres à l'horizon de la plaine, à peu près invisibles. Au début, on n'a pas prêté attention. On a juste continué, comme si de rien n'était. Tiens, tiens, dit le vieillard, comme quand t'as mal. Comme quand t'as mal dans la poitrine, tu te dis « Oh, c'est rien, on verra ça demain, ça va passer. » D'abord, ça a toujours passé, alors ce coup-ci encore. Et tu t'occupes les mains pour ne pas penser. Tu bois encore un coup. Tu crois pas au malheur. D'ailleurs, si tu y penses, c'est quand ça arrive. Oh, pas de la superstition, non, ça, c'est des trucs de bonne femme. Toi, t'y penses pas tout simplement. Et le malheur s'en va, vexé que sa gueule d'enfariné te revienne pas. Il va plus loin, le malheur. Mais là, tu t'en tapes, c'est plus tes oignons. Hein? Voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est arrivé. Dans le jour... Ah, dans le jour, ça s'entendait un peu. Enfin, si le vent donnait de norrois, un roulement. Des heures, on n'y pensait plus, ça n'existait pas. Et tout d'un coup, bang, c'était là. Et ça restait jusqu'au soir, surtout l'automne. Il n'y avait pas de feuilles au bois et là, ça grognait, sec. Ah, oh, bon Dieu, oui. Et puis, pendant des mois, plus rien. L'hiver, la pluie, la bouillasse sur la plaine, le calme. On croyait que ce serait fini. L'animal avait pris sa part, il ne reviendrait plus. Pernique, il n'en avait pas assez, le salaud. Alors un matin, le grondement. Alors là, on a compris. On a pris nos vélos et on est tous allés voir. Sauf Marcel, qu'on n'avait pas vu depuis 2000 ans. Normal. On se planque. Juste les yeux qui sortent du talus. Et là, on a cru mourir. La roussine est déjà par terre. La machine jaune et bleue rugit, gratte la cour de la ferme de ses pattes articulées et lance sa grosse mâchoire de ferraille sur le dernier mur qu'elle grignote. Des pinces de crabe, la belle cheminée bicentenaire explose dans un fracas de poussière ocre. La charpente vaincue est déjà au sol, démantelée comme un pantin en coulisses, inutile, pitoyable, chauve de ses belles ardoises. La pierre se fracasse, s'effondre, retombe au sol dont elle est née. Un ruban de bitume tout neuf sort d'un arrière-plan qu'on n'avait pas remarqué encore, rapport à l'agonie de la Roussine. Et là, Marcel nous aperçoit, il approche. On veut s'enfuir, on n'aurait rien à lui dire. Mais il nous rattrape. On est gêné, empêtré dans nos condoléances. C'est la Roussine qu'on assassine. Quelle idée! Non mais quelle idée! Et puis nous, on n'aime pas les garçons qui pleurent. Et forcément, Marcel, il doit pleurer. Marcel, il doit pleurer. Mais non. Nous, on est bouche bée. Il a l'air heureux. Marcel, mais il est frappé, lui. C'est sûr. Même qu'il a l'air content. Marcel. Il entraîne la bande dans l'arrière-plan, là où c'est calme, par le ruban de bitume tout neuf qui s'arrête net dans la plaine. Au mi-temps des herbes folles et des cailloux brisés de la Roussine, à genoux. C'est là qu'il fait. On est devant un petit cube de béton en fausse pierre lavée. On a vendu. Il est fier. C'est la baraque qu'on nous a filée pour la Roussine et pour les terres. Et qu'il nous montre la cuisine luisante de Formica et qu'il nous invite à entrer dans la salle de bain avec chauffe-eau, lavabo et douche minuscule casée en hâte dans un coin par un architecte distrait. C'est Bat, hein, qui nous fait Marcel. Nous, on dit rien. On regarde le petit cube de béton gris. On a compris. Du nord, ça va descendre maintenant. Ça va manger la plaine. Petit à petit, grignoter les métairies les unes après les autres, avec des mâchoires de fer dans des panaches de fumée grise lancées au ciel des saisons et des grondements repus. Des gens passent sur le trottoir, s'arrêtent. Lentement, des autos roulent, traversent le lotissement serré. Oh, c'est un quartier tranquille. Des familles, des enfants, jeunes, pas encore de retraités. Pas très loin, on entend parfois les appels de l'usine. Des mugissements de sirènes, des éclats de haut-parleurs, comme dans les gares. On n'y comprend jamais rien, mais elle est là, on le sait. Elle veille sur sa progéniture, elle dicte le pouls de la nuit. À l'heure des rêves, ces 3-8 éclairent les petits cubes gris et surtout la barre des ouvriers. De beaux rectangles jaunes jetés sur l'obscurité et le bitume de la nuit. Dans son rocking chair, il, le vieillard, se balance comme un vieil enfant usé. Il se tait, le vieillard. il ne raconte plus. Derrière ses yeux en écaille, c'est la grande plaine, et tout au bout, inaccessible, l'étang bougot et son odeur de vase. C'est ce jour qu'il aimerait effacer de sa mémoire. C'est son frère, sa moitié d'âme qu'il ne peut oublier. Tous regardent par-delà la haie de Thuya, la petite bande et Marcel. Il, Marcel, se tient derrière le muret bas qui clôt le jardinet. Ses jambes nues et sa touffe de blondeur hirsute se découpent sur le petit cube de béton gris, une ombre de cataclysme fixée aux murs atomisés, longtemps, longtemps après l'explosion du champignon. Nous, on regarde Marcel sans comprendre, on le fixe et il s'écroule comme la roussine, tout d'un coup. Oh, il chiale, Marcel, comme un veau devant son petit cube de béton gris. On ne sait pas pourquoi, ça le prend net. C'est toujours comme ça, avec le bonheur. Faut pas en causer, faut pas y toucher, faut pas le montrer. Il se dissout au regard. C'est comme les fleurs de pissenlit, les dents de lion du savoir. Je sème à tout vent et plus rien, le vide. La désolation soudaine. Alors, on le plante là, Marcel. Un traître. Nous, on n'a rien à lui dire. Et on n'aime pas les garçons qui pleurent. On fonce sur nos vieux clous vers la plaine. On veut pas savoir, juste rouler le vent d'été dans nos tifs mal peignés. Juste le saut de nos machines contre nos fesses meurtries dans les sentiers cabossés. Le nord et ses rumeurs dans notre dos. On s'arrête à toutes les métairies. On bat leur rappel, la bande grossit, Hubert, Marc, Rémi, Jean, André, Pascal, François, ça ferraille dur sur les machines, ça crie, ça gueule. Oubliez les ombres à l'horizon de la plaine, on se tourne pas. Là-haut, c'est le nord, tant pis. Aujourd'hui, il fait chaud. Août. Personne n'a de goût au mur dans les ronciers. On verra plus tard. Au creux du bois, l'étang bougot. La bande se répand en volées piaillantes. Les machines sont poquées là à la diable, en tas rouillés ou rutilants, selon. La prairie sort du bois en pente douce et se mêle à la vase. Plus de villes tentaculaires, une bande de garçons en sueur, des shorts, des chemisettes volent sur l'herbe ou dans la boue. C'est un rite. Ils sont nus, plongent, s'ébrouent, tapent la surface grise et tourmentée de l'eau dans des gerbes irisées.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, Monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, Monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Et c'est avec ce petit jardin dans lequel nous a invité Jacques Dutron que se termine pour aujourd'hui La Plume est à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour la seconde partie de cette nouvelle, La Plaine, un texte de Gilles Dorgère. Merci à l'ami Frédéric Guyon qui a réalisé cette émission. À dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.